du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême du Seigneur, qui est une théophanie, la dernière de celle qui nous est donnée à contempler ces jours-ci, après sa manifestation à la crèche, celle de l'épiphanie, et c'est une encore celle du début de son ministère, une théophanie, c'est-à-dire Dieu se montre, une épiphanie si vous voulez, se manifeste ici à son baptême. Alors voyons simplement ce que le baptême du Seigneur nous donne de contempler pour comprendre ensuite dans notre méditation ce qu'il nous est donné de recevoir dans notre baptême. Voyons d'abord le baptême du Seigneur. C'est Jean le Baptiste qui baptise de l'eau, c'est un baptême de pénitence. Il s'agit par un geste simple et connu de beaucoup de religions d'ailleurs, de se laver en signe du désir que l'on a de laver nos fautes et donc de changer de vie. C'est un baptême de conversion. Alors évidemment, le Christ n'en a pas besoin, car il n'a nul besoin de se convertir, il est déjà tout tourné à l'intérieur de Dieu, dans le dialogue avec son Père, par l'Esprit Saint. Mais s'il le fait malgré tout, avec la surprise de Jean le Baptiste, vous le savez, eh bien, c'est qu'il le veut, accomplir toute justice, c'est-à-dire emmener la nature mortelle qu'il a endossée, qu'il s'est fait lui-même, il veut emmener cette nature mortelle toute comparable à la mienne dans les eaux de la mort, car le baptême, c'est bien cela, plonger au plus profond de l'eau, et l'eau stagnante dans la Bible est toujours le signe de la mort, les eaux du déluge qui recouvrent la terre et font mourir, et ressortir avec sa propre nature humaine de ces eaux par l'eau ruisselante qui, elle, symbolise toujours la vie, cette eau qui coule sur la tête du Seigneur, qui manifeste qu'il ressort de cette mort pour renaître. Alors évidemment, je le redis, il n'a pas besoin, lui, de renaître, il est déjà parfaitement né, mais il emmène là notre nature de l'incarnation à la purification, au baptême, à la prédication, à la mort et à la résurrection du Christ. Il n'y a qu'un seul geste. En Dieu, il n'y a qu'un seul geste qui est celui de nous sauver dans notre nature humaine. Et ce geste est diffracté dans le temps de sa vie, dans ses 33 ans qu'il a voulu passer au milieu de nous. Et il ne se passe pas, au contraire, il organise de recevoir ce baptême. Après tout, il aurait pu se manifester à lui-même ce baptême, mais il veut le recevoir de Jean, le précurseur, qui n'est pas seulement parce qu'il est le précurseur du Christ, il est le précurseur de l'Église dans sa propre personne, ce Jean qui a quitté le temple, tout prêtre juif qu'il est, ce Jean qui n'est pas marié, tout prêtre juif qu'il est, ce Jean qui est déjà le précurseur du sacerdoce nouveau, baptise le Christ, car on ne se donne pas à soi-même un sacrement, et le Seigneur, dans sa propre nature humaine, a voulu recevoir de l'Église en germe ce sacrement, ressortant des eaux comme Moïse avec le peuple pour être vraiment sauvé. Alors se produit quelque chose d'extraordinaire, une véritable théophanie dont je parlais, une manifestation divine qui se manifeste de trois manières. Tout d'abord, les cieux s'ouvrent. Et dites-vous bien que dans toute l'Antiquité, on a attendu que les cieux s'ouvrent et que le Seigneur descende. Alors la surprise fut que pour qu'il descende, les cieux ne s'ouvrirent pas, ou tout du moins pas de manière manifeste. Il vint sous la forme d'un enfant pour ensuite ouvrir les cieux dans sa nature, préparant ainsi notre propre coopération au salut. Enfin, les cieux s'ouvrent, et vous le savez, mes bien chers frères, à chaque sacrement, à chaque action sacrée que pose l'Église, à nouveau, les cieux s'ouvrent dans ce moment intemporel où la parole divine prononcée une fois pour toutes se rend présente, ouvre le ciel et nous donne de goûter la réelle présence du Christ. Ce n'est pas tout. L'Esprit Saint se manifeste sous la forme d'une colombe. Alors il y a deux mots qui sont antinomiques. L'Esprit Saint se manifeste corporellement, a-t-on traduit ici plus justement près du grec. Alors faut-il comprendre que l'Esprit Saint s'est incarné lui aussi dans une colombe ? Non, évidemment, car le petit mot magique se trouve juste après, corporellement, comme une colombe. C'est-à-dire que c'est une vision divine qui relève de l'indicible, corporellement signifie bien qu'il y a vraiment quelque chose qui est là, mais comme signifie qu'il est impossible d'approcher mieux que par cette colombe évidemment qui rappelle celle de Noé, ressortant des eaux de la mort du déluge, c'est la colombe qui apporte la paix et qui signifie que Dieu revient avec son peuple. Ici aussi, c'est sous la forme d'une colombe, c'est donc symboliquement que le Seigneur se fait sentir, mais corporellement, c'est-à-dire réellement au-dessus du Seigneur. Enfin, la voix du Père se fait entendre, cette voix qui ne peut dire en quelque sorte qu'une seule chose, elle dit le Fils, car c'est sa parole divine pour nous, « Tu es mon Fils, en toi j'ai mis, parole difficile à traduire, toute ma complaisance en qui je me complais, tout mon amour, la perfection de mon amour. » Bref, c'est dans le Fils que se révèle parfaitement l'Esprit Saint qui les unit, Dieu qui aime profondément et qui donne sans cesse dans sa création. Voilà cette manifestation divine devant laquelle nous ne pouvons être que bouche bée du Christ qui nous dit combien il est vraiment dans sa nature humaine, proche de son Père, uni complètement à Dieu, dans cette Trinité Sainte qui se manifeste ici, et n'allez pas vous laisser faire à croire que c'est une invention postérieure de théologiens, comme je l'ai encore entendu il y a peu. Ici, celui qui a des oreilles, qu'il entende, et qu'il entende que Dieu se manifeste dans sa Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, nous nous réjouissons, et c'est notre propre baptême, évidemment, dont il est question. C'est de cette coopération que j'ai déjà évoquée, dont nous voulons vivre. Nous allons, nous aussi, nous sommes baptisés dans l'eau et dans l'Esprit. Alors me direz-vous, pourquoi dans l'eau ? Puisque Jean le Baptiste a bien annoncé que lui baptisait d'un baptême de pénitence dans l'eau, mais que venait celui qui est plus fort que lui, terme qui concerne Dieu, le fort, le vaillant, et qui baptisera dans l'Esprit et le feu. Alors, vous savez, toujours, toutes les hérésies sont toujours des vérités partielles. Certains, lisant l'Écriture mot à mot, se sont dit « Il ne faut plus baptiser avec de l'eau, puisque le Seigneur baptisera de l'eau et de l'Esprit. » Oui, mais le Christ a bien dit à Nicodème qu'il te faut renaître de l'eau et de l'Esprit. Et le Christ s'étant fait lui-même baptiser dans l'eau, nous ne voulons pas être supérieurs à notre Maître et le suivre tout entier et nous faire aussi baptiser d'un baptême de pénitence, c'est-à-dire un baptême qui signifie la renonciation à tout péché. C'est notre grande liberté, mes bien chers frères, de nous faire baptiser aussi du baptême de pénitence. Voici pourquoi l'Église utilise l'eau encore, et bien entendu, elle baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, selon le commandement du Christ, de toutes les nations faites des disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce feu qui est en nous, cet Esprit Saint qu'il manifeste, c'est celui de notre vie divine ardente, un peuple ardent à faire le bien, dit saint Paul, et si d'aventure la flamme de votre cœur devait s'affadir, eh bien c'est qu'il faudrait de nouveau l'entretenir. Vous avez reçu le Saint-Esprit, ne le contristez pas, ces dons du Saint-Esprit qui sont en vous. Il peut arriver, c'est bien humain, mes bien chers frères, que nous nous affadissions, que nous nous reposions, que nous tombions. La nature, la pente naturelle de l'homme, dit Saint-Exupéry dans Citadelle, c'est la descente. Alors ne vous laissez pas attraper par cette descente naturelle. Parce que nous vivons du feu et de l'Esprit, nous voulons sans cesse, avec une ardeur incomparable, nous élever, nous laisser nous élever vers le ciel. Alors comment fait-on si le feu s'éteint? On y remet des bûches. Et les bûches, eh bien oui, c'est la prière. Vous l'avez vu, le Seigneur, alors qu'il priait, une voix descendit du ciel, Esprit Saint comme une colombe. C'est la prière qui est l'union à Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est entretenir en nous un feu incomparable. Je le dis car souvent on est déçu par sa prière. Combien de fois on me dit « Mon Père, je ne sais pas prier, je prie très mal, puis quand je prie, il ne se passe rien, et puis voilà. » Mais c'est normal! Je me mets à genoux, je fais mon signe de croix, je dis ma prière, j'essaye de méditer comme je peux, et puis il ne se passe rien. Si, c'est spirituel qui se passe. Ne t'attends pas, comme quand tu manges, à avoir le ventre plein, ou comme quand tu bois, à être désaltéré. La prière est un acte éminemment spirituel, ne soyez pas étonnés qu'il soit difficile à saisir pour nous, pauvres hommes, mais... Dans cette prière, dans cette intimité avec le Christ, où nous échangeons ce que nous n'avons pas, c'est-à-dire l'Esprit, nous en avons si peu, eh bien Dieu nous enrichit de lui-même. C'est exactement comme de remettre une bûche dans le feu. Il faut un certain temps pour que cela produise de la chaleur. Il faut que l'opération se concrétise pour produire en nous une nouvelle charité, une ardeur intérieure. Alors oui, notre baptême nous a fait renaître une fois pour toutes, il nous a configuré au Christ. Ce n'est pas un mot, c'est un néologisme, mais je plaide pour son invention. Il nous a christifiés, c'est-à-dire que le baptême fait de nous des chrétiens. Je sais qu'on a combien de fois on s'est disputé dans l'Église en disant « Alors le baptême, c'est le pardon des péchés, et puis non, le baptême, c'est l'entrée dans l'Église. » Alors aujourd'hui, on est plutôt dans l'entrée dans l'Église. Peut-être que pendant un temps, on a parlé que de laver de tout péché. Mais c'est la même chose. Si nous sommes christifiés, rendus conformes au Christ, faits chrétiens, c'est parce qu'en nous, le Seigneur nous rend conforme à lui-même sans nous écraser toutefois. C'est une grâce divine qui suppose la nature, la parfaite, sans l'altérer, et donc qui nous lave de tout péché comme est le Christ, et qui donc nous fait entrer dans l'Église qui n'est rien d'autre que le corps mystique du Christ, répandu et communiqué jusqu'à la fin des temps. L'entrée dans l'Église et le pardon de tout péché, c'est bien une seule et même chose que nous avons reçue à notre baptême. Alors il nous faut tous les jours, d'abord il vous faut fêter votre baptême. J'espère que vous connaissez tous la date de votre baptême. Elle a pu être inscrite sur votre médaille de baptême, j'ai perdu la mienne. Mais je sais, j'ai été baptisé le 26 juin. Et il vous faut fêter ce baptême, cette nouvelle naissance. Et à chaque fois que vous entrez dans l'Église, normalement ça marche, il y a de l'eau à l'entrée, il y a une conque pour vous rappeler que vous avez été plongé dans le baptistère qui a fait de vous des chrétiens, et ce n'est pas un signe banal ou anodin. À chaque fois que nous replongeons nous-mêmes, par notre coopération, nous le voulons, notre main dans le bénitier, pour nous signer du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous rappelons ce baptême ineffable qui a fait de nous et pour toujours de nouvelles créatures de Dieu que nous étions déjà, mais qui nous a conformés, comme l'a dit la collecte d'entrée de cette messe, qui nous a configurés au Christ et qui a fait de nous, dorénavant, des chrétiens, des coopérateurs du Christ, des actionnaires de Dieu par l'Esprit Saint qui s'introduit en nous dans cet ineffable échange qui nous configure à lui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.